prendre sans couper là.
Parce que si je fais ça, l'autre il est toujours là, il faut que je fasse ça. Eh bien, ça va être un essai en direct. Eh bien oui, je crois que ça marche en fait. Et je pense que cette saison, Enrique, va être compliquée pour moi. Autant toi, tu as réussi à faire des directs du parc de Saint-Jean, tu as des messages par SMS, tu arrives à jongler avec cette technique. Et moi, ça fait 10 minutes que j'essaye d'appuyer sur un bouton pour prendre l'antenne. Je suis désolé, cette saison 2019-2020 va être très compliquée. J'ai pris l'antenne, je ne sais pas comment je vais la rendre, mais c'est pas grave en fait, ça va être du n'importe quoi. Merci Enrique pour VibraSOS sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez, bah vous allez essayer d'écouter Biotine sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h, l'émission de l'actualité scientifique. Alors le pire, c'est que j'ai fait une communication en disant à tout le monde, ça y est, c'est la reprise de cette émission sur l'antenne de Graphite tous les samedis. Et bah, normalement, ça fonctionne. Et puis là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On a un petit problème technique depuis ce matin apparemment, donc ça devrait se résoudre. Voilà, j'en suis totalement désolé, j'ai plus de 10 minutes de retard. Mais c'est pas grave, on a quand même encore le temps de pouvoir discuter ensemble sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine avec Jean-Noël. Biotine, c'est l'émission tous les samedis entre 12h et 13h qui vous propose un petit peu une revue d'actualité scientifique pour se tenir au courant de l'actualité science, médicale, technologie. On essaye un petit peu de s'informer par différents canaux, par différents médias pour savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde sur des sujets qui vont nous concerner ou que nous concerne déjà, donc toutes les semaines. Graphite vous propose une émission pendant une heure sur l'actualité scientifique et elle s'appelle donc Biotine. Vous nous écoutez sur internet graphite.net pour ceux qui nous écoutent en direct ou en différé grâce au podcast. Et vous nous écoutez également sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et notamment à Compiègne à l'occasion donc du forum des associations. Graphite est présent sur ce forum, donc vous pouvez rencontrer l'équipe si vous le souhaitez aujourd'hui au parc de Saint-Jean à Compiègne. Profitez de rencontrer l'équipe et voilà, de vous informer sur l'actualité de Graphite. Vous avez la possibilité aussi aujourd'hui, alors comme j'ai perdu tous mes repères, il va falloir que je me remette aussi dans le bain parce que c'est un petit peu la rentrée pour moi. Vous pouvez réagir en direct 06 95 065 026 06 95 065 026. Je ne sais même pas si je vais être capable de passer un peu de musique pendant cette émission, on verra. Écoutez, je compte sur votre indulgence. Il y a tellement d'années que l'on se connaît déjà parce que on va fêter bientôt les 11 ans de cette émission. Ce sera une petite émission un peu particulière aujourd'hui, c'est pas grave. On retrouvera, je l'espère, normalement dans cette émission, Anne Fleur qui revient également à l'antenne de Graphite pour nous proposer sa chronique sur les inventions qui se passent un peu partout dans le monde. Elle choisit une ville ou un pays au hasard et elle nous explique un petit peu ce qui a été créé dans ces pays. Et normalement aujourd'hui, on ira voir ce qu'il se passe du côté de Chicago. Nous sommes aujourd'hui le 14 septembre 2019. Déjà, c'est donc la rentrée de Biotine et on commence toujours cette émission depuis quelques semaines déjà avec l'éphéméride. Savoir que le 14 septembre 2015, c'était la première observation directe des ondes gravitationnelles et on en avait déjà parlé dans cette émission il y a 4 ans. Et le 14 septembre 1849, né à Ryazan dans l'Empire russe, Ivan Petrovitch Pavlov. Tiens, Pavlov, ça nous dit quelque chose. C'est un nom qui nous, voilà, qui quelque part sonne un petit peu parce que on se dit, on en a déjà entendu parler. Effectivement, lui, il a travaillé en tant que médecin et physiologiste russe. Et à l'époque, dans les années 1890, il va réaliser une expérience sur la fonction gastrique du chien et il va essayer de recueillir un petit peu de salive pour essayer de mesurer et analyser un petit peu ce qu'il y a dans cette salive dans différentes conditions parce qu'il essaye de faire un petit protocole expérimental et il a remarqué en fait que les chiens, ils avaient tendance à saliver avant d'entrer réellement en contact avec les aliments. Et en fait, il va se dire, je vais essayer d'étudier ça, parce que ça lui demande un petit peu, ça lui paraît un peu bizarre, il appelle ça une espèce de sécrétion salivaire psychique. Et en fait, il s'avère que ce phénomène est vraiment intéressant, il a bien fait de suivre cette piste, il a fait pas mal d'expériences, et il va découvrir les lois fondamentales de l'acquisition et la perte des réflexes conditionnels, c'est-à-dire ces réponses un peu réflexes, comme la salivation. Et il va mener ses expériences au cours des années 1890, au cours des années même 1900. Et elles ne furent connues des scientifiques occidentaux que dans les années 1920. Elles seront toutes traduites en anglais. Il n'empêche qu'il aura reçu le prix Nobel de médecine en 1904. En fait, c'est le premier Russe qui a reçu ce prix Nobel, mais il présentait à l'époque ses travaux en langue russe, qui était une langue quand même très peu connue, si bien qu'il y a eu au niveau de la traduction un contresens, parce qu'on parle encore de réflexe conditionné, alors qu'à l'origine, lui parle de réflexe conditionnel, ce qui est un sens quand même un peu différent. On sait qu'il y a une grande influence de ses travaux sur la science, sur la culture populaire, parce que finalement, on parle de chien de Pavlov. C'est là que ce nom nous dit quelque chose. Ce fameux chien de Pavlov, c'est d'écrire en fait quelqu'un qui réagit de façon instinctive à une situation plutôt que d'essayer d'utiliser un petit peu son esprit critique. On croit aussi à l'époque que Pavlov, il appuyait sur une sonnette avant d'amener la nourriture pour les chiens, donc les chiens, dès qu'ils entendaient la sonnette, commençaient à saliver. En fait, on s'est rendu compte par la suite, quand ces laboratoires ont été ouverts, qu'il utilisait plein de stimuli pour essayer de faire réagir les chiens. Donc, il n'y avait pas de cloche, d'ailleurs. Donc, c'est encore une légende. En tout cas, Pavlov, grâce à ses recherches novatrices sur le conditionnement, et plus spécifiquement sur le conditionnement classique, est considéré comme l'un des fondateurs de la psychologie soviétique moderne. Pavlov, né donc un 14 septembre 1849, il était intéressant d'évoquer son nom aujourd'hui ici. Un décès, celui de Giovanni Domenico, Jean-Dominique Cassini. Il est mort le 14 septembre 1712. Il est mort à Paris. C'est un astronome, un ingénieur qui a été naturalisé français. Il était savoyard d'origine. Et en 1673, il fait la première mesure précise de la distance de la Terre au Soleil. Ça ne date pas d'hier. Et son nom, bien sûr, Cassini, nous est assez connu, notamment avec une sonde qui porte son nom. En tout cas, Cassini peut-être plus connu que Pavlov. L'année 2019 est l'année du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. En fait, l'ONU s'est dit, on va tous les ans choisir une thématique et on va en faire une année internationale. Et cette année, il a été décidé de pouvoir orienter un petit peu cette année sur la chimie. Et il a été décidé de célébrer pendant toute cette année ce fameux tableau périodique des éléments que vous connaissez sûrement. C'est ce fameux tableau avec plein de symboles et de chiffres qu'on avait dans nos salles de classe et en fait qui classe l'ensemble des éléments chimiques. Et depuis début janvier dans cette émission, toutes les semaines, on remplit une case et là on va remplir la case numéro 20, c'est le calcium. En fait, le calcium pur, c'est un métal. Donc déjà au départ, on n'avait peut-être pas cette notion que le calcium était un métal brillant qui ressemble un peu à l'aluminium, sauf qu'il n'est pas présent d'une façon pure dans la nature parce qu'il s'oxyde directement et il s'oxyde en ion calcium et cette forme oxydée, il y en a beaucoup dans des aliments. Bien sûr, on pense aux produits laitiers, aux amandes, aux pistaches. Il représente l'élément métallique le plus abondant dans notre corps humain. Il est majoritairement stocké dans les os, bien sûr, aussi dans les dents et il intervient dans le fonctionnement de nombreux processus enzymatiques. Le calcium, très important. Le calcium vient du mot latin calx qui signifie chaud. La chaux, c'est H-A. AUX en référence à son extraction par électrolyse d'une solution d'eau de chaux, donc on a gardé ce nom-là pour faire le calcium, même si certains composés du calcium comme le chaux, comme le calcaire, sont connus depuis l'Antiquité, eh bien c'est Humphrey Davy qui a été capable d'isoler ce métal, c'était en 1808. Humphrey Davy est un nom qu'on évoque très souvent quand on parle de ces éléments chimiques, parce que c'est souvent lui, en fait, qu'on retrouve comme étant un petit peu le découvreur un peu officiel de ces éléments chimiques. Calcium, c'est le grand C petit A si vous voulez remplir votre tableau. Et c'était la case 20. Voilà, il est 12h21 déjà sur l'antenne de Graphite. En fait, l'actualité scientifique pendant cette période estivale, objectivement, elle a été quand même assez calme. Il n'y a pas eu une information vraiment importante. Quelques petites informations, bien sûr, un petit peu ponctuelles, ça et là. Mais objectivement, on n'a pas été marqué par une actualité scientifique vraiment débordante depuis qu'on s'est quitté fin juin. Il n'empêche que ça redémarre maintenant. Depuis quelques jours, depuis début septembre, ça y est, ça commence à se bousculer. On avait parlé l'année dernière des Indiens qui s'étaient dit « Nous aussi, on veut aller sur la Lune ». Et donc, ils ont envoyé une sonde, la fameuse sonde Chandrayaan 2 qu'on avait évoquée, ça devait être en mai ou en juin, on avait parlé de cette actualité, avec l'idée donc d'envoyer cette sonde sur la Lune. Très bien, génial. Donc, ça s'est très bien passé au niveau du voyage, sauf que, quand ça ne veut pas, c'est un peu comme aujourd'hui, ici, dans ce studio, il y a des moments où rien ne va, et pour les Indiens, ça n'a pas été simple, parce qu'en fait, elle arrive sur la Lune, elle est prête à se poser, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, 2 kilomètres avant l'atterrissage, on perd le contrôle et on perd la communication de cette sonde. En fait, l'agence spatiale indienne, elle a annoncé il y a quelques jours qu'elle a retrouvé sa sonde, ça y est, et elle l'a retrouvée à l'endroit où cette sonde devait atterrir. Il y a eu des images qui ont permis de voir un petit peu comment ça s'est passé. Et l'atterrisseur, il est en un seul morceau, mais il a atterri d'une façon un peu bancale, donc il est un peu incliné sur la surface de la Lune. L'agence indienne n'a pas souhaité rendre publiques ces images, donc on les croit sur parole. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. On explique, en tout cas, l'agence explique que cet atterrisseur arrive un peu de façon bancale, mais on ne veut pas montrer les images parce que les images seraient difficilement interprétables. Oui, enfin bon, si c'est bancal, je pense qu'on est quand même assez capable de voir ce qui se passe. Il n'empêche que cet atterrisseur reste désespérément silencieux. Alors, il y a eu des tentatives pour essayer de renouer le contact, avec l'idée un petit peu d'évaluer son état de santé. Donc pour l'instant, impossible de faire la communication avec cet atterrisseur. Le contact avait été donc perdu quelques minutes avant son atterrissage sur la Lune. Les chances de rétablir le contact sont quand même encore faibles parce que joue un petit peu la montre des batteries. Sa durée de vie, elle est de 14 jours terrestres. Donc il y a déjà bon bout de temps qu'il atterrit. Donc on arrive un petit peu à la fin de l'échéance. Ça va être un petit peu dommage pour les Indiens. L'idée, c'est qu'il est équipé de panneaux solaires, ce qui va le permettre un petit peu de recharger. Maintenant, s'il est d'une façon un peu bancale, il ne s'est pas posé bien droit, il ne va pas pouvoir être chargé d'une façon optimale. Bref, pour les Indiens, c'est un petit peu un échec et c'est un peu dommage parce que c'était un véritable engouement de l'agence spatiale indienne qu'il souhaitait également participer à cette course et sur la Lune et d'atterrir sur la Lune. On se rappelle que les Chinois, c'était l'année dernière, il me semble, la fin de l'année dernière, avaient atterri sur la face cachée de la Lune. Les Indiens, c'était leur année. Et bien, pour l'instant, c'est un peu compliqué apparemment pour eux. C'est fort dommage. On essaiera de suivre un petit peu l'actualité spatiale également tout au long de cette saison parce que vous savez que maintenant on veut aller sur la Lune, on veut aller sur Mars et il y a pas mal d'informations régulières dans cette émission si vous êtes fidèle bien sûr. 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir en direct n'hésitez pas. 06 95 065 026 sur l'antenne de Graphite vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. Et là, nous allons tous prier très fort pour se dire que la musique qui est prenante de cette émission fonctionne également. Donc on y va, à tout de suite. We're both on the shore. You're killing me, you hold me down. You call me for sure. You're killing me, you're holding me down. Little talks for the better. Tap, tap on your shoulder. I fell in love, but it's over. I go down, down, down. Black straps going under. My skin getting older. Fell in love, but it's over. I go down. We're both on the road.
You breaking me, you holding me down. We share our thoughts. You breaking me, you holding me down. Red lips but harder, long hair swing better. I felt love but it's over. I go down, down, down. Thick blood on a finger, together wilder. I felt love but it's over. I go down. And you are just fading away.
It's getting cold, I'm feeling colder.
And you are just finding a way. Red lips but harder, long hair swing better. I felt love but it's over.
C'était Adam Nas sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, soit sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé, parce que je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de l'émission, soit sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et notamment à Compiègne où a lieu en ce moment même le forum des associations. Il y a le stand de Graphite, donc vous pouvez rencontrer l'équipe de Graphite directement sur place, échanger avec eux sur l'actualité de Graphite, si vous souhaitez également vous renseigner pour la future bourse au disque et au BD qui a lieu courant octobre également. Donc voilà, pas mal d'actualités avec Graphite. Donc vous pouvez vous rendre toute la journée sur le forum des associations Parc de Songeon à Compiègne. Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, c'est l'émission de l'actualité scientifique et on va s'intéresser à un sujet qui a fait un peu parler ces derniers jours. Ça concerne la cigarette électronique qui a été présentée pendant longtemps, rappelons-nous, comme une alternative plutôt saine à la cigarette classique. Oui, oui, mais il y a eu ensuite quelques travaux qui ont commencé à semer le doute. Et si vous êtes fidèle de cette émission, je crois que c'est dans les années 2015-2016, on commençait déjà à évoquer des travaux de recherche qui montraient quand même que c'était pas si optimal que ça. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas le recul encore totalement nécessaire pour évaluer l'impact de la consommation de cigarettes électroniques. Donc on commence à en savoir un peu plus maintenant. D'autant que l'actualité s'est un petit peu bousculée ces derniers jours, ces dernières semaines, quand on a appris que plusieurs personnes qui étaient adeptes justement de cette cigarette électronique, qui étaient a priori en bonne santé, eh bien elles ont quand même déclaré certaines maladies, notamment des troubles pulmonaires assez graves. Aux États-Unis, il y a une première victime qui a été déplorée le 23 août dernier. Et aujourd'hui, on a un décompte encore totalement provisoire provisoire d'environ 450 malades et apparemment 5 décès qui seraient liés justement à ce problème. Alors, il y a eu des analyses, des liquides qui avaient été utilisés dans ces cigarettes électroniques et il semblerait qu'un dénominateur commun se dégage aujourd'hui. Les produits contiendraient du THC, en fait c'est une substance active du cannabis, et il y aurait également des échantillons d'une huile de vitamine E qui serait également présente, et si on la vaporise, qui est le principe justement de ces cigarettes électroniques, on la vaporise à haute température et qu'on inhale cette vapeur, eh bien on pourrait être l'origine de la cause de ces dommages sur les poumons, mais il y a encore des analyses plus précises qui sont en cours et qui vont essayer de confirmer un peu cette hypothèse. En fait, les patients souffrent d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë qu'on va commencer à appeler maintenant la maladie du vapotage. Du liquide s'accumule dans les poumons, donc l'oxygène ne peut plus circuler. Et il y a eu des scanners pulmonaires qui ont été réalisés. Ça ressemble donc à une espèce de pneumonie virale ou bactérienne grave, mais les chercheurs essayent de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, il y a eu des médecins de l'université de l'Utah aux États-Unis qui pourraient avoir mis la main sur une piste intéressante. En fait, ils ont analysé, observé les poumons d'une dizaine de patients. Ils ont découvert sur tous les poumons qu'il y avait de grandes cellules immunitaires, ce qu'on appelle des macrophages, qui sont chargés de gouttelettes d'huile. Ça, c'est de quoi espérer en fait poser un diagnostic précoce, fournir des pistes de traitement plus appropriées, pourquoi pas aussi des indices sur les causes de cette maladie encore un peu mystérieuse. La présence de ces fameux macrophages dans les poumons des patients oriente les médecins vers un diagnostic d'une infection souvent causée par un virus ou une bactérie, mais des différences au niveau des radios qui ont été effectuées de ces poumons ont été également distingué, je vais y arriver, excusez-moi, et on n'en sait guère plus encore pour l'instant. C'est un peu l'affolement, en clair. Il y a eu, au niveau de la présidence américaine, une annonce comme quoi les cigarettes électroniques allaient être arrêtées. Alors aujourd'hui, je ne sais pas précisément où on en est dans cette décision, mais en tout cas, voilà, on n'a pas le recul encore nécessaire sur les conséquences de l'inhalation de ces vapeurs dans les cigarettes électroniques. Mais là, le fait qu'il y ait eu plusieurs décès soudains, rapprochés dans le temps, et que l'on évoque justement la cause directe de l'utilisation de ces cigarettes électroniques, pose beaucoup de questions. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas quoi, et on ne sait pas encore précisément comment on va pouvoir essayer d'apporter des solutions thérapeutiques, ou en tout cas essayer de prévenir ou d'améliorer peut-être les substances utilisées dans ces cigarettes électroniques. Il y a plusieurs articles qui sont en lien avec cette actualité. Ces derniers jours, vous avez sûrement, vraisemblablement pu les lire, je n'en doute pas, et on viendra bien sûr ultérieurement sur ce sujet-là, parce que nous connaissons tous autour de nous des personnes qui vapotent, justement, et donc essayer un petit peu de prendre du recul et de voir si c'est si bien que ça. 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir en direct pour évoquer ou donner votre avis sur l'actualité scientifique. Donner aussi un avis sur la chronique d'Anne Fleur. On va rester aux États-Unis. On va notamment parler de Chicago. C'est là où nous envoie Anne Fleur. Bonjour Anne Fleur, c'est à toi.
Bonjour à tous et bonjour Jean-Noël. Alors, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et puis moi, aujourd'hui, je vais vous inviter à prolonger en fait les vacances. Je vous embarque avec moi afin de continuer notre tour du monde des inventions et des innovations d'une région de la planète. Aujourd'hui, retour aux États-Unis, pas très très loin de Boston, là où je suis, direction Chicago. Si Chicago vous rappelle Al Capone ou encore la Deep Dish Pizza, sachez que vous allez être surpris par cette superbe ville que les Américains aiment appeler The Windy City, la ville vantée. Aujourd'hui, nous allons parler attractions, industrie textile et alimentaire ou encore entretien de la maison. Alors accrochez-vous, c'est parti, direction Chicago. Alors la toute première invention dont je vais vous parler, c'est assez marrant. L'orgueil pousse à faire quand même de sacrées choses. George Ferris a inventé la grande roue pour détrôner la tour Eiffel, qui était ce dont tout le monde parlait après la grande foire de Paris en 1889. Alors 4 ans plus tard, pour la grande foire internationale de Chicago, la première grande roue, dite en anglais Ferris Wheel, la roue de Ferris, donc son inventeur, arborait 36 nacelles qui pouvaient chacune transporter 40 personnes. Donc ça faisait quand même sacrément du monde. Malheureusement, la grande roue originale a été démontée en 1894, donc un an plus tard, et détruite par dynamite. Donc on n'a quand même pas l'original. La seconde invention dont je vais vous parler, on va parler habit. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui ? Moi, personnellement, je suis en jean quasiment tous les jours. Ben, on va parler de la fermeture éclair. Là encore, la Foire internationale de Chicago nous a permis de découvrir cette ouverture facile. Enfin, facile la plupart du temps. Whitcomb Judson, c'est le nom de cet inventeur qui a donc inventé la première fermeture éclair. Celle-ci émerveille. Elle a littéralement émerveillé les visiteurs parce que ce n'était pas évident en fait, à manipuler à l'époque. Elle permettait en fait de fermer les chaussures à l'époque, donc on n'était pas complètement sur le même cas d'usage qu'aujourd'hui. La fermeture telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle a été inventée par un employé de Judson, donc ça reste quand même dans la famille si je puis dire, en 1913, donc une vingtaine d'années plus tard. La troisième invention dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui nous sauve un peu la vie, histoire de garder un intérieur à peu près propre. Je vais vous parler de l'aspirateur. Savez-vous que le premier aspirateur est en fait né dans la cave d'un certain Yves McGaffey en 1869 ? À l'époque, celui-ci était composé de bois et de tissu. Il était assez léger, mais très dur à manœuvrer car on devait remonter une manivelle en même temps qu'on poussait pour l'alimenter en courant. Donc pas évident, évident. Ce modèle était vendu $25 à Chicago et à Boston. C'était même un petit peu plus abordable qu'aujourd'hui, mais peut-être pas aussi efficace. Un énorme incendie à Chicago, comme très souvent, en 1871, les a malheureusement tous brûlés, sauf deux. Et en fait, les deux qui ont été sauvés sont désormais exposés dans l'Ohio, au centre historique de Hoover, la marque très connue de aspirateur, la boucle bouclée. Enfin, la quatrième invention dont je vais vous parler aujourd'hui, on la doit à une femme. Et moi, j'aime bien parler un peu de femmes parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est donc à une certaine Joséphine Gary Cochrane de Shelbyville, dans la banlieue donc, de Chicago, qui a inventé cette invention ô combien pratique. Pardon, mais donc, j'ai du mal à parler aujourd'hui, pardon. Alors, adieu les éviers remplis de vaisselle de la veille et God bless le lave-vaisselle. Décidément, la Foire internationale de Chicago de 1893 aura bel et bien changé nos vies, et pour le meilleur. Les premiers lave-vaisselle ont donc été inventés par cette femme, et c'est près de 50 ans plus tard que ces machines étaient commercialisées pour la première fois auprès du grand public. Au début, elles étaient réservées, comme c'est souvent le cas avec les innovations, à l'élite, et notamment à un usage commercial, avec des hôtes, enfin, particulièrement dans les hôtels et les grands restaurants. Et alors pour l'anecdote, Joséphine, elle est quand même sacrément entrepreneur puisqu'elle a monté sa petite boîte pour fabriquer ses lave-vaisselle. Et cette petite boîte est tout de même devenue la grande entreprise et le leader mondial des robots, KitchenAid. Alors merci Joséphine. Voilà, donc si vous pensez maintenant à Chicago, vous rencontrez des gens de Chicago, vous pourrez leur dire qu'effectivement vous savez que leur ville ne se résume pas à une rivière verte pour la Saint-Patrick, à Al Capone ou encore à la Dieppe Dish Pizza, puisque la grande roue, la fermeture éclair, l'aspirateur et le lave-vaisselle, s'il vous plaît, viennent tout droit de Windy City. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour explorer une nouvelle ville tous ensemble. À bientôt.
Merci Anne-Fleur. Décidément, je pense que pendant toute cette émission, on va avoir des problèmes techniques. Tu étais à Boston et tu étais loin, on t'écoutait pas extraordinairement bien, j'en suis désolé. En tout cas, on était à Chicago et on retrouve Anne-Fleur la semaine prochaine. Je crois qu'on va revenir en Europe la semaine prochaine, on verra bien. Merci Anne-Fleur. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. On fait un peu une revue de presse de l'actualité scientifique, technologique, médicale. Et tiens, on va s'intéresser à nos ordinateurs. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que nos ordinateurs fonctionnent avec un mot de passe pour protéger l'accès, jusque-là, ok, mais on sait très bien que ça commence à avoir certaines limites. Ça peut être piraté, ça peut être perdu, il faut avoir parfois l'intervention d'un professionnel pour nous aider un petit peu à débloquer ça. Alors, il y a une solution qui serait de passer au système d'identification biométrique, et ça, on en parle de plus en plus.
Alors, c'est des technologies intéressantes, mais qui ont aussi certaines limites. Déjà, les ordinateurs ne sont pas encore tous équipés. Et puis, le système, par exemple, de reconnaissance faciale manque de précision. Donc, on n'est pas encore totalement convaincu par cela. Eh bien, on pourrait maintenant, dans un futur proche, pouvoir essayer de déverrouiller nos ordinateurs avec simplement le geste de nos mains. C'est Hitachi qui a annoncé une nouvelle technologie d'analyse du réseau veineux des doigts qui pourrait justement remplacer l'utilisation des mots de passe. En fait, le seul équipement nécessaire, c'est une webcam qui serait déjà intégrée apparemment dans la plupart de nos ordinateurs, donc on pourrait l'utiliser, et aussi au niveau des smartphones, bien sûr. Alors, il faut avoir quand même une définition d'image assez importante. Mais en tout cas, si on a ça, on pourrait essayer d'utiliser ce système qui fonctionne en analysant la forme et la distribution des vaisseaux sanguins dans les doigts grâce à la webcam. En fait, les veines vont créer un motif unique chez chacun d'entre nous et ce motif ne varie pas avec le temps. Il y a également une sécurité supplémentaire parce que c'est un motif qui est apparemment quasiment impossible à copier, nous dit-on. Et en plus, les veines qu'on utilise, elles doivent être irriguées en sang pour que ça puisse fonctionner. Tout ça parce que dans l'article de presse, on nous dit, mais oui, vous savez, dans les films d'espionnage, de science-fiction, on n'a qu'à couper la main de la personne pour laquelle on veut récupérer le mot de passe. Non, parce que la main doit être irriguée. Donc on ne peut pas couper la main comme ça pour utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est un nouveau système qui est utilisé dans des banques au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que cette technologie qui semble être maîtrisée pourrait arriver sur le marché du grand public l'année prochaine. L'année prochaine, en 2020, on va pouvoir, grâce à notre réseau sanguin des doigts, allumer notre ordinateur. On n'aura plus à se mémoriser ces mots de passe compliqués avec des minuscules, des majuscules, des chiffres et je ne sais quoi. Hop, on pose les mains et l'ordinateur tout de suite est déverrouillé. C'est ça la technologie, c'est ça qui nous fait rêver. Et en tout cas, c'est Hitachi qui, dans un communiqué de presse, l'a annoncé il y a quelques jours. On pourrait donc remplacer les mots de passe avec le scan des veines de notre main. Mon Dieu, je ne sais pas trop vers où nous allons. En tout cas, on va écouter un autre titre sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après. On va partir en Écosse. Si je vous parle du monstre du Loch Ness, je pense que vous savez de quoi on va évoquer. C'était l'actualité ces derniers jours. Diabolic Prank, c'était Cannibal sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de l'actualité scientifique. Tous les samedis entre 12h et 13h, c'est la rentrée pour Biotine. Nouvelle saison 2019-2020. Et tous les samedis, pendant une heure, on prend le temps de se poser, voilà, et de feuilleter un peu l'actualité scientifique, technique, médicale, savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Parce que les sujets qui sont liés à certaines maladies, à certaines technologies, à certaines découvertes scientifiques vont avoir un impact sur notre quotidien. Si vous êtes fidèle de cette émission qui a démarré en 2008 sur l'antenne de Graphite déjà, il y a plus de 10 ans, eh bien voilà, ça vous permet de voir un petit peu l'évolution de cette recherche scientifique avec différents domaines qu'on a pu évoquer tout au long de ces années. Et là, eh bien du coup, on se dit, mais mon Dieu, en 2019, il y a des choses vraiment importantes qui vont nous être communiquées. Il y a des choses sur lesquelles les chercheurs sont en train de travailler qui vont révolutionner notre vie. Eh bien non. Eh bien non, parce que depuis quelques jours, tout le monde a les yeux rivés en Écosse, parce que on nous dit que c'est pas un requin, c'est pas un poisson-chat, ce n'est pas un esturgeon géant. On cherche encore à savoir quel est ce fameux monstre du Loch Ness. Et la dernière trouvaille que tout le monde est en train de commenter sur les réseaux sociaux, c'est que le monstre du Loch Ness serait une anguille géante. Je sais pas. Enfin, il y a des moments où on se dit quand même, il y a des choses qui... Faites-nous rêver quand même, une anguille géante. Je suis franchement déçu, je m'attendais à quelque chose, je ne sais pas, d'un peu plus extraordinaire. En tout cas, c'est une longue étude, hein. Faut pas croire que c'est quelque chose comme ça qui tombe du ciel. Non, non, il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus, les résultats ont été dévoilés il y a quelques jours, et c'est notamment un scientifique néo-zélandais qui vient conforter cette hypothèse. Il s'appelle Neil Gemmell, il travaille à l'université d'Otago, donc en Nouvelle-Zélande. C'est un généticien parce qu'il a travaillé en fait sur l'ADN de différents échantillons d'eau qui ont été recueillis jusque dans les profondeurs de ce lac situé en Écosse. Les résultats ont conduit le scientifique et son équipe à écarter l'hypothèse d'un reptile qui serait venu comme ça du fin fond du Jurassique. Donc non, ce n'est pas un reptile. Ce monstre qu'on appelle Nessie, pour Loch Ness, ça a l'air tellement mignon, Nessie, on a envie de lui faire un gros bisou, eh bien... On nous explique que ce n'est pas une histoire récente. La plus ancienne observation remonte au 6e siècle après Jésus-Christ. Et ce n'est donc pas apparemment un reptile aquatique comme le plésiosaure, pardon, qui était à un moment une piste évoquée. L'étude donc de ce généticien permet également d'écarter d'autres hypothèses, notamment de poissons géants. On retrouve apparemment une quantité significative d'ADN d'anguille qui serait donc un petit peu importante en grande quantité dans les eaux froides du Loch Ness. Alors, les eaux froides du Loch Ness seraient-elles peuplées de spécimens géants ? Nos données ne révèlent pas leur taille, mais la quantité que l'on a retrouvée fait qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse qu'il y ait des anguilles géantes dans le Loch Ness. C'est ce qu'a souligné le généticien dans un communiqué de presse que tout le monde, évidemment, a relayé par la suite, parce que quand on dit Loch Ness, automatiquement, ça fait vendre. Des investigations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ou infirmer cette théorie, mais apparemment, selon les données de cette équipe de chercheurs, cette hypothèse d'anguille géante reste plausible, d'autant plus que cette piste avait été déjà évoquée en 1933. Alors déjà à l'époque, on s'était dit que c'était une anguille, et donc là, on retrouve une grande quantité d'ADN, et on se dit mais c'est effectivement une anguille. Alors, les théories sont vraiment importantes et abondent un petit peu dans tous les sens en ce qui concerne la nature du monstre. Je vous l'ai dit, on parlait d'un reptile marin préhistorique, on passe par un oiseau aquatique, il y a même eu un moment des études très sérieuses qui ont dit mais non, en fait il n'y a rien, c'est juste le mouvement des vagues sous l'effet du vent. Donc, il faut voir que finalement chacun s'y met dans cette partie pour savoir qui aura raison. Alors le mystère n'est pas encore complètement résolu, je ne l'espère pas parce que franchement on attendait quelque chose de plus glorieux, mais en tout cas le professeur néo-zélandais, donc je rappelle son nom, Neil Gemmell, eh bien il se félicite d'avoir constitué une excellente base de données sur ce qui peut se trouver dans ce lac légendaire des Highlands en Écosse, qui est notamment une attraction touristique majeure pour l'Écosse, bien sûr, tu m'étonnes. On a donc prélevé de l'ADN ADN d'humains, et sûrement des hommes à l'intérieur, de chiens, de moutons, de bétail, mais aussi de la faune sauvage locale, avec des renards, des cerfs, des blaireaux, des campagnols, de nombreuses espèces d'oiseaux. Donc on a trouvé de tout, en fait, dans ce lac, et notamment de l'ADN de, d'anguilles. Et... il y avait même eu toutes sortes de théories un peu loufoques. Et en 2006, nous dit-on, après 2 ans de recherche, quand même pas rien, il y a eu un paléontologue écossais qui avait conclu que le monstre du Loch Ness, en fait, c'était un éléphant d'un cirque ambulant qui était en train de nager. Donc voilà, je vous dis, toutes les théories sont plausibles, bien sûr. Donc aujourd'hui, on nous dit que c'est une anguille géante. Et on devrait savoir, à mon avis, dans quelques centaines d'années, ce qu'il en est précisément. Il faut laisser le mystère, c'est l'intérêt de tout le monde, et notamment des lieux d'attraction touristique en Écosse. Si on donne maintenant le résultat, c'est plus intéressant. Enfin, personne va aller se payer des vacances au Loch Ness pour aller voir une anguille. Franchement, ça ne sert plus à rien. Donc, c'est un petit peu dommage, voilà, de nous avoir raconté la fin du film, qui n'est peut-être pas la fin, comme vous l'avez compris, bien sûr, parce qu'apparemment, on cherche encore apparemment ce qui se passe au niveau du Loch Ness. Vous écoutez Biotine, c'est bientôt la fin de cette émission. C'est passé vite, tu m'étonnes, étant donné que je suis arrivé en retard et que nous avons quelques problèmes techniques. Dernière information, et qui va encore nous poser quelques questions sur ces flocons blancs qui sont présents sur les pistes. Eh bien, c'est pas toujours de la neige. On a découvert et on a compris qu'il y avait des minuscules particules de plastique qui étaient transportées par le vent, qui étaient déversées par la neige. Et ces minuscules particules de plastique ont été détectées dans l'Arctique et dans les Alpes, selon une étude publiée dans la revue américaine Science Advances au courant de cet été. Et il y a donc une réclamation de recherche urgente pour évaluer les risques sanitaires de cette découverte. Alors, on savait déjà qu'il y avait des millions de tonnes de déchets plastiques qui se déplacent dans les rivières et les océans. Ça, je pense que maintenant, tout le monde l'a bien compris et assimilé. Ces millions de tonnes de déchets se décomposent progressivement de petits fragments sous l'action des vagues et aussi sous l'action des rayons ultraviolets du soleil. Mais cette nouvelle étude a révélé que les particules microplastiques peuvent être transportées sur de grandes distances dans l'atmosphère, et ces débris, qui sont assez petits, de moins de 5 mm de longueur, sont ensuite déversés loin, loin, loin de leur lieu d'origine, par notamment les précipitations de pluie ou de neige. Et notamment, c'est la neige qui serait vraiment un grand vecteur de cela. C'est ce qu'ont découvert donc des scientifiques de l'Institut allemand Alfred Wegener, qui ont travaillé également avec un institut suisse, un institut de recherche sur la neige et les avalanches. Il est évident que la majeure partie des microplastiques présents dans la neige provient de l'air. Ça, c'est ce qu'a déclaré la principale auteur de cet article. Elle s'appelle Mélanie Bergman. Ses collègues et elle ont utilisé une technique d'imagerie infrarouge pour essayer d'analyser des échantillons qui avaient été prélevés il y a déjà 3-4 ans sur de la glace flottante au large du Groenland, et ils les ont ensuite comparés à des échantillons prélevés dans les Alpes suisses et également dans le nord-ouest de l'Allemagne, et les concentrations de microparticules dans l'Arctique étaient significativement plus faibles que dans les sites européens. Ok, mais toujours important. Et Mélanie Bergman a précisé que peu de travaux avaient été réalisés pour déterminer les effets de l'exposition à ces particules, mais une fois que nous avons déterminé que de grandes quantités de microplastiques peuvent également être transportées par voie aérienne, eh bien la question se pose naturellement de savoir si et dans quelle mesure nous pouvons les inhaler. C'est ce qu'elle donne comme élément, comme question, bien sûr. Et elle souligne donc la nécessité de mener d'urgence des recherches sur les effets de ces microplastiques sur la santé humaine et animale, bien sûr. Donc ça a été évoqué cet été avec ce plastique que l'on retrouve sur les pistes de ski dans les Alpes, entre autres. Voilà l'état du monde, mes enfants, 2019. Je pense que cette saison 2019-2020 va encore poser des grandes questions sur le climat, sur l'énergie, sur la médecine, sur les nouvelles technologies, sur les objets connectés. C'est ça, Biotine, tous les samedis, ce que je vous propose d'évoquer tous ensemble pendant une heure, entre 12h et 13h. C'est la fin de cette émission de ce 14 septembre. Désolé d'avoir eu quelques difficultés techniques pour prendre l'antenne. J'espère que la réception de votre côté était parfaite. Je n'ai pas eu de message, donc je me dis que normalement ça a dû fonctionner. Le 06 95 065 026 qui vous permet d'envoyer des messages par SMS. N'hésitez n'hésitez pas. Vous continuez à écouter Graphite sur l'antenne sur internet avec graphite.net, je vais y arriver, soit en direct, soit en différé en téléchargeant les podcasts, et bien sûr sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et notamment à Compiègne. Je vous rappelle qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de vous rendre au parc de Songeon à Compiègne à l'occasion du forum des associations, notamment pour rencontrer l'équipe de Graphite. Il y a un stand Graphite qui est présent donc à l'occasion de ce forum des associations. On se retrouve la semaine prochaine, 12h, sur l'antenne de Graphite pour une nouvelle émission de Biotine. On parlera notamment, comme tous les ans à cette période, de l'attribution des prix Ig Nobel. Alors, pas les prix Nobel, ça sera un petit peu plus tard, mais avant, il y a les Ig Nobel, c'est-à-dire ces recherches un peu loufoques et drôles, mais qui parfois font réfléchir, bien sûr. C'est une façon d'aborder la science de façon un petit peu légère également, et c'est tout l'intérêt. Je vous remercie de votre fidélité, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On se retrouve samedi prochain, bonne journée à tous, à bientôt.